vous écoutez la radio du lycée français au Caire.
Bonjour Monsieur Salahin, nous nous présentons Marie, Inès et Clara. Nous sommes enchantés de vous recevoir au lycée aujourd'hui.
Pourriez-vous vous présenter en quelques mots s'il vous plaît ?
Alors donc je m'appelle Tanguy Salahin, ça fait 15 ans que j'habite en Égypte, je suis donc journaliste indépendant, je travaille pour plusieurs médias français, étrangers. Les principaux, c'est le journal Le Figaro, le magazine L'Express, la radio RTL et puis la télévision Canal+ et iTélé. Voilà, je travaille un peu sur tous les sujets en Égypte, aussi bien les sujets de politique que les sujets de société, de culture, de sport. Et puis je travaille aussi dans d'autres pays de la région de temps en temps.
Quelles études avez-vous faites pour devenir journaliste et pourquoi avoir choisi cette voie ?
Alors, pourquoi avoir choisi cette voie ? Parce qu'on va faire les choses dans ce sens-là. C'est, j'ai choisi mes études en fonction de ce que je voulais faire. Parce que je me suis rendu compte assez vite que j'aimais transmettre l'information. J'aimais, quand je voyais que j'apprenais quelque chose, le raconter et le dire à ma famille, par exemple. Ça a commencé comme ça, tout simplement. Et je me suis dit que c'était un métier que j'aimais faire. Sans savoir exactement au début ce que c'était. Alors ce que j'ai fait pour essayer de mieux comprendre, c'est que j'ai fait des stages dans une radio notamment, et puis dans un journal un petit peu pour voir comment ça se passait, si ça me plaisait. Et puis ensuite j'ai choisi mes études, j'ai voulu faire une école de journalisme, qui était la formation la plus évidente, on va dire, pour devenir journaliste, c'est logique, puisqu'on apprend toutes les bases du métier. Mais avant d'entrer en école de journalisme, il fallait que je fasse des études après le bac, des études universitaires ou bien une autre école, puisqu'on ne rentre pas directement en école de journalisme à 18 ans. Donc j'ai commencé à faire des études de droit, puis je suis allé en sciences politiques après, j'ai passé le concours, j'ai été reçu. Et il y a beaucoup d'étudiants en journalisme qui passent par sciences politiques, tout simplement parce que ça donne une culture générale importante qui permet de mieux passer les concours. Ensuite, j'ai fait l'école de journalisme, où j'ai appris à faire de la télé, de la radio, à écrire des articles, parce que ça s'apprend un petit peu quand même. Et puis, à la fin de l'école, j'ai commencé à travailler comme journaliste.
Pour quels journaux, pour quelles chaînes et pour quelles stations radio avez-vous travaillé lors de la Révolution ?
Alors, pendant la Révolution, j'ai travaillé pour à la fois les journaux pour qui je travaille habituellement et puis aussi pour d'autres qui se sont rajoutés. Parce que vous savez, quand il y a des événements comme ça, comme la Révolution qui se passe, tous les médias ont envie de comprendre ce qui se passe. Et ils n'ont pas toujours quelqu'un, donc ils font appel à ceux qui sont là. Donc moi, j'ai travaillé évidemment pour le Figaro, j'ai travaillé pour l'Express, j'ai travaillé pour Canal+, pour RTL, mais aussi pour France 2. J'ai travaillé aussi pour des journaux dans d'autres pays, en Suisse, en Belgique, et même au Maroc, une radio au Maroc pour laquelle je travaille. Voilà, ça c'est les principaux médias pour qui j'ai travaillé, en essayant à la fois de raconter ce qui se passait, parce que c'était important de dire ce qui se passait dans la rue, pour expliquer aux gens, pour raconter aux gens qui étaient loin, en France, et aussi en essayant d'expliquer, parce que il ne suffit pas de raconter ce qu'on voit, il faut aussi, comme moi je suis depuis longtemps en Égypte, une des choses que je peux faire, c'est aussi essayer d'expliquer aux gens pourquoi ça se passe. Pourquoi les jeunes, en particulier égyptiens, avaient envie que ça change. C'était quoi leur vie avant ? C'était quoi leur problème ? Et puis, que voulaient les différents acteurs de la révolution ? L'armée, les gens de Moubarak, les jeunes qui étaient dans la rue, les islamistes dont on parlait un petit peu à l'époque. Voilà, il fallait à la fois témoigner et raconter, et puis essayer d'expliquer et de permettre aux gens de comprendre ce qui se passait.
Quand êtes-vous venu en Égypte et pourquoi avez-vous choisi ce pays spécialement ?
Alors, je suis arrivé en Égypte exactement le 3 janvier 1997. Vous n'étiez peut-être pas né. En réalité, je n'ai pas choisi ce pays spécialement. À l'époque, il y avait encore en France le service militaire en coopération. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller justement dans l'armée, on allait en coopération, donc on allait aider... Dans des pays en général dits en voie de développement, c'est-à-dire des pays qui avaient besoin d'une aide de la France, on allait aider à développer, dans mon cas, les journaux francophones. Donc c'est comme ça. Moi, je terminais l'école de journalisme, je travaillais à Paris, j'avais fait la demande de partir en coopération plutôt que d'aller à l'armée. Et on m'a proposé à ce moment-là plusieurs pays. Donc là, j'ai choisi l'Égypte, mais c'était un choix entre 3-4 pays. En l'occurrence, c'était avec le Canada, la Roumanie et la Jordanie. Je pensais que l'Égypte était plus intéressante. Et puis, une fois que j'ai été sur place, j'ai travaillé pendant 16 mois donc, au Progrès égyptien, que vous connaissez peut-être, un petit journal, avec peu de moyens, dont il fallait essayer de l'aider à être d'un peu meilleure qualité. Et puis au bout de 16 mois, je me suis dit, bon, je connais un petit peu le pays maintenant, j'ai appris l'arabe un peu, c'est dommage de rentrer en France, j'ai rien qui m'attend spécialement en France, donc je vais rester un petit peu comme journaliste indépendant, un an ou deux. Puis 14 ans plus tard, je suis toujours là, enfin plus pour longtemps, puisque dans une semaine, je repars m'installer en France pour un nouveau travail.
Vous avez écrit un livre, L'Égypte de Tahrir, qui retrace l'histoire de la révolution égyptienne. Pourriez-vous nous en parler ? Quel est le moment qui vous a plus particulièrement marqué ?
Le moment de la révolution ? Il y a beaucoup de moments qui m'ont marqué pendant la révolution pour des bonnes ou des mauvaises raisons. Le premier moment qui m'a marqué, ça a été une rencontre avec un homme le 25 janvier. Si vous vous souvenez, il y avait cet appel à la révolution le 25 janvier, mais personne n'y croyait vraiment. On se disait que ça allait être une manifestation de plus, parce que malheureusement, ça faisait des années qu'il y avait un peu comme ça des manifestations qui n'aboutissaient pas, parce qu'il y avait 10 fois plus de policiers que de manifestants à chaque fois. Alors on a cherché les manifestants, on est allé à l'université du Caire, souvent ce sont les étudiants qui démarrent les manifestations, il n'y avait rien, il n'y avait personne. On est revenu en centre-ville, et là, près du tribunal, on a rencontré un homme. Et cet homme, c'est un banquier à la retraite, donc un homme qui a 60 ans passé, qui a sorti de sous son blouson une pancarte écrite en français, c'était assez amusant, « Moubarak dégage », qui était une allusion à Ben Ali dégage en Tunisie, puisque Ben Ali venait de partir du pouvoir. Et là, je me suis dit, si quelqu'un comme cet homme et dans la rue aujourd'hui, peut-être qu'il va se passer quelque chose d'autre qu'une simple petite manifestation des gens habituels. Cet homme n'avait aucune raison d'être dans la rue. Il avait profité du système, il avait bien gagné sa vie, il menait une retraite tranquille, il aurait pu très bien se satisfaire de ça. Et il était dans la rue, et la rencontre avec cet homme et la discussion qu'on a eue était pour moi un des moments forts. Après, bien sûr, il y a eu beaucoup d'autres moments, des moments très durs, le 28 janvier, bien sûr, au milieu des manifestations, quand la répression était très très forte et que beaucoup de gens sont morts. Le 2 février aussi, pendant, vous savez, ce qu'on a appelé la bataille des chameaux sur la place Tahrir, où nous, journalistes, nous avons été vraiment pris pour cible délibérément et systématiquement chassés par des gens armés, et où c'était très difficile. Et puis il y a eu des moments à l'inverse de fête, comme le soir du 11 février, ou d'autres moments sur la place Tahrir, notamment le soir, il y avait vraiment une ambiance qui était assez extraordinaire. On était dans un moment dramatique, hein, de l'histoire, tout le monde avait peur, personne ne savait où allait l'Égypte. Et en même temps, les gens chantaient, les gens étaient contents d'être là ensemble. Et donc c'est un mélange de bonnes et de mauvaises images qui me reste de cette révolution. En ce qui concerne le livre, c'est un livre sur lequel on travaillait avec Claude Guibal, avec qui je l'ai écrit. On travaillait avant la Révolution, en fait. On voulait faire un livre pour raconter, justement, l'idée c'était de dire que l'Égypte était au bord d'une révolution parce que ça allait mal. Et on voulait expliquer dans ce livre aux Français qui ne savaient pas forcément quelle était la situation en Égypte, pourquoi les jeunes Égyptiens en particulier, on voulait beaucoup parler des jeunes, pourquoi les jeunes Égyptiens n'en pouvaient plus et pourquoi ils voulaient que ça change. Puis évidemment, la révolution est arrivée, donc il a fallu un petit peu retravailler le livre, mais c'était ça l'idée.
Pourriez-vous nous dresser un rapide tableau de la situation politique actuelle ?
Alors, la situation politique actuelle est malheureusement, d'une certaine manière, en train de se simplifier dramatiquement. Pourquoi ? Parce qu'on a plusieurs processus qui avancent les uns à côté des autres. On a d'un côté ces jeunes dont on parlait, les jeunes révolutionnaires, qui voudraient que la révolution aille jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il y ait des réformes en profondeur, et notamment, par exemple, L'adoption d'un système vraiment démocratique, une réforme du ministère de l'Intérieur, puisque les policiers aujourd'hui, les chefs de la police, sont les mêmes qu'à l'époque de Moubarak. Ce sont les mêmes qui réprimaient à l'époque et qui répriment toujours aujourd'hui. Les médias officiels, donc la télévision d'État, les grands journaux officiels, ce sont toujours les mêmes personnes. Et ce sont toujours les mêmes personnes qui font la même propagande qu'à l'époque de Moubarak. Ces jeunes-là se sont battus depuis 10 mois pour qu'il y ait des vraies réformes. Et personne ne les a écoutés. Ni l'armée, qui veut préserver un peu l'ancien système, ni les islamistes, qui eux étaient intéressés par gagner les élections. Aujourd'hui, on en est là. Il y a les élections, et vous avez vu les résultats, les très gros scores des différents partis islamistes. Donc on a maintenant une force politique islamiste importante, et qui a une légitimité, puisque les gens ont voté pour elle. De l'autre côté, on a l'armée, qui est au pouvoir, toujours, et qui a une espèce de légitimité, puisqu'une grande partie de la population lui fait confiance, malgré tout ce qui se passe en ce moment. Et puis la troisième force, ce sont ce qu'on appelle un peu les libéraux, ou les jeunes révolutionnaires, qui sont malheureusement de plus en plus isolés, de plus en plus fragilisés. Et là, avec ce qui se passe ces jours-ci, devant le Parlement, sur la place Tahrir, on voit que les deux autres forces, l'armée et les islamistes, chacun à leur manière, sont en train de les écraser. C'est ça un peu le paysage politique aujourd'hui en Égypte. Ça ne veut pas dire que ce paysage va rester figé. Peut-être qu'il va y avoir de nouveau des changements, de nouveau des surprises, comme il y a eu des surprises. Personne ne pensait, encore une fois, que le 25 janvier allait être le début d'une révolution, même si cette révolution ne s'est pas achevée pour l'instant. Mais à l'heure actuelle, on se retrouve avec des jeunes révolutionnaires qui sont coincés, si vous voulez, entre le marteau de l'armée et l'enclume des islamistes, et qui malheureusement n'auront probablement pas une grande place dans les institutions politiques à venir, puisqu'au Parlement ils ne seront pratiquement pas représentés, et que les seuls qui pourraient dans ce cas les écouter, l'armée ne veut pas les écouter.
D'accord. Donc d'après vous, qu'est-ce qui pourra se passer en Égypte dans les années à venir ?
Ça, c'est très difficile de répondre, parce qu'il y a beaucoup d'inconnus. Je pense qu'il y a politiquement, ce que voudraient les militaires, c'est que leur statut soit préservé. Ils veulent continuer à pouvoir diriger plus ou moins le pays, mais surtout à préserver leurs intérêts, notamment économiques. Il faut savoir que l'armée égyptienne a beaucoup d'intérêts économiques et beaucoup de privilèges. Ça, ils veulent le protéger. Pour cela, ça les arrange plus d'avoir des islamistes au Parlement, qui vont éventuellement, avec lesquels ils vont pouvoir négocier, que des révolutionnaires qui, eux, veulent une vraie démocratie. Donc ils veulent un changement de ce système-là. Donc on peut imaginer qu'il peut y avoir une alliance, une espèce d'alliance entre l'armée et les islamistes. Surtout les frères musulmans, parce que les salafistes sont particulièrement radicaux, et ça paraît difficile. Mais on peut aussi imaginer que ça ne marche pas entre les deux, entre les islamistes et les militaires, et dans ce cas, il y a toutes sortes de scénarios possibles qui peuvent entrer en jeu. Certains sont très négatifs, ce serait l'armée qui prendrait complètement le pouvoir et qui arrêterait le Parlement, qui arrêterait les élections, etc. Ou ça peut être aussi que finalement on redonne une place plus importante aux libéraux pour faire un espèce d'équilibre. Et puis il y a une inconnue, c'est que cette jeunesse égyptienne qui est descendue dans la rue en janvier, février, elle n'est pas forcément satisfaite de l'évolution actuelle de l'Égypte, et donc elle va peut-être redescendre à un moment ou un autre dans la rue, ou en tout cas il peut encore se passer des choses. Et puis la dernière inconnue, c'est l'économie. L'économie égyptienne va mal, et beaucoup de gens ont du mal à se nourrir, tout simplement, aujourd'hui, à trouver du travail. Ces gens-là, à un moment ou un autre, peuvent aussi se révolter, ou en tout cas exiger du changement. Donc c'est franchement impossible aujourd'hui de dire comment sera l'Égypte dans 3 ans. Ce qui est certain, c'est qu'il va falloir des années, certainement, pour reconstruire un nouveau système. Si ce nouveau système est reconstruit, si on ne reproduit pas l'ancien système. C'est un peu la question que tout le monde peut se poser aujourd'hui. Mais prédire exactement ce qui va se passer, honnêtement, personne ne le sait.
Ok, Quels sont vos projets professionnels ?
Alors, mes projets professionnels sont de continuer, bien sûr, à suivre ce qui se passe dans ce pays, parce que j'y suis attaché, et dans la région. Mais j'ai aussi envie, après 15 ans d'Égypte et de Proche-Orient, de pouvoir travailler sur d'autres sujets. Donc, dans mes projets professionnels, à l'heure actuelle, j'ai dans l'idée, puisque je vais retourner m'installer à Paris, de pouvoir aussi aller travailler dans d'autres pays pour voir autre chose. Parce que je crois que c'est important aussi pour... quand on est journaliste, il faut être... c'est important de très bien connaître ce dont on parle. Moi, je connais bien l'Égypte. Mais c'est important aussi d'être curieux, d'avoir un regard un petit peu nouveau sur les choses qui permet de poser des questions, de se poser les bonnes questions et de se poser les questions que se posent les gens. Parce que être journaliste, c'est pas juste travailler pour soi-même, c'est travailler pour des gens qui vont vous lire, qui vont vous écouter. Et il faut répondre aux questions que se posent ces gens-là. Par exemple, ce qui est difficile pour moi aujourd'hui, parce que je connais très bien l'Égypte, c'est de me dire qu'est-ce qu'un Français qui vit à Paris, à Lille, à Marseille, qu'est-ce qu'il se pose comme question sur l'Égypte ? Qu'est-ce qu'il a envie de savoir ? C'est pas évident. Donc aller voir de nouveaux pays, aller voir des endroits qu'on ne connaît pas, c'est important. Par moments, ça oblige à se remettre un petit peu en question et puis à s'en poser des questions. Et ça fait partie en plus du charme et du plaisir de ce métier, de pouvoir aller rencontrer des gens un peu partout et leur poser des questions. Pas beaucoup de métiers où on peut aller chez les gens et leur demander qu'est-ce qu'ils font de leur vie, pourquoi, qu'est-ce qu'ils pensent, etc. Donc ça fait partie de mes projets professionnels pour les années qui viennent.
Comment avez-vous collecté les informations lors des élections ? Qui avez-vous rencontré et où êtes-vous allé ?
Alors, pendant les élections, sur le jour des élections proprement dit, ben, il faut aller dans les... je suis allé dans plusieurs bureaux de vote. Donc, je suis allé, selon les jours, je suis allé au Caire ou à Fayoum, parce que je voulais voir deux réalités très différentes de l'Égypte. L'Égypte urbaine, l'Égypte de la ville, avec des gens assez éduqués, et puis l'Égypte de la campagne, où la culture est très différente, et où le vote aussi est assez différent. Donc je voulais voir un peu ces deux Égyptes pour voir si finalement, en dehors du Caire, les sentiments étaient les mêmes. Donc il faut aller parler aux gens, c'est tout simple. Il faut aller dans les bureaux de vote, parler aux gens, leur demander... pourquoi ils viennent, qu'est-ce que ça leur fait, est-ce que c'est la première fois qu'ils votent, on leur demande pas pour qui ils votent, on peut, et ils peuvent répondre ou pas, mais c'est pas tellement ça l'important, c'est de savoir un petit peu ce qu'ils pensent de la situation générale, est-ce qu'ils ont le sentiment que l'Égypte a changé depuis le 25 janvier, ce genre de choses. On essaye aussi de parler aux gens qui tiennent les bureaux de vote, les juges, qui surveillent le processus. On parle aux représentants des différents partis qui sont là pour superviser aussi, pour vérifier que tout se passe bien. Certains trichent un petit peu parce qu'ils continuent à faire campagne à l'extérieur des bureaux de vote alors que c'est interdit, mais bon, c'est aussi, ça fait partie de l'apprentissage de la démocratie. Voilà, c'est relativement simple, un jour d'élection. Après, la difficulté, c'est quand on attend les résultats, parce que là, il faut attendre que ces résultats soient annoncés officiellement pour être sûr du résultat. Et là, ça, en Égypte, ça prend toujours beaucoup de temps. C'est un petit peu compliqué. Alors, on est obligé de se baser au début sur ce que disent les partis politiques, qui disent « nous, on a gagné, nous, on a fait un gros score », etc. Alors, on dit « d'après eux, ils ont gagné ». Bon. Et on attend les résultats officiels. Voilà, je crois que c'était les différents points que tu as soulevés dans ta question.
Vous qui avez l'habitude d'interviewer les autres, quel effet cela vous fait d'être interviewé ?
Moi, ça m'amuse toujours. Moi, ça m'amuse parce que j'aime bien répondre aux questions. Mais là, comme ça, je suis venu pour répondre à vos questions et je suis ravi de répondre à vos questions sur tout ce que vous avez à me demander. Par contre, souvent, ce que je me fais comme réflexion, c'est que Moi, je trouve que les gens sont assez extraordinaires. Souvent, ils acceptent de répondre aux questions des journalistes. Alors que si quelqu'un venait comme ça, dans la rue, même chez moi, parfois, on va frapper aux portes, quasiment, hein, quand on se promène, on va parler aux gens. Et on fait d'un seul coup irruption dans leur vie, et on leur pose des questions parfois très personnelles. Et je trouve qu'en règle générale, souvent les gens acceptent de répondre. Et c'est pas évident, moi je sais pas si je répondrais comme ça si quelqu'un que je connais pas venait me poser des questions sur ma vie privée, sans raison, enfin, voilà. Et je pense en particulier dans les milieux assez populaires de gens qui sont pas très éduqués, qui ont pas du tout l'habitude qu'on s'intéresse à eux, tout simplement, puisque ici en Égypte, le pouvoir, les autorités, enfin, personne ne s'intéresse à leur vie. Ils sont très surpris, en fait, mais souvent très positivement. Ils sont très contents que finalement on vienne leur poser des questions, qu'on s'intéresse à leur vie, tout simplement. Par exemple, là j'étais à Fayoum, donc pour les élections, dans des petits villages au fin fond de Fayoum, et qu'on vienne leur poser des questions, et qu'on s'intéresse à leurs réponses, et qu'on s'intéresse à leurs problèmes. Il y a des gens, quelques-uns, qui étaient un peu suspicieux, qui disaient « Mais pourquoi ? Pourquoi vous posez ces questions ? Vous êtes des espions, vous êtes... » Mais la plupart étaient très, très accueillants et répondaient très volontiers aux questions. Et moi, souvent, je me dis « Est-ce que je serais aussi accueillant si quelqu'un venait frapper à ma porte ou m'arrêtait dans la rue pour me poser des questions ?» J'en suis pas sûr. Donc, voilà. Bon, moi, j'ai l'habitude de répondre aux questions, en plus, parce que en dehors de mon... Enfin, une partie de mon travail en tant que journaliste consiste à répondre justement à des questions quand je suis à la télévision, quand je suis à la radio, etc. En général, pas des questions sur moi, plus sur la situation, mais ça peut arriver aussi que ce soit des questions un petit peu plus, un peu plus personnelles. Voilà, c'est une question d'habitude.
Merci pour vos réponses, ça a été un grand plaisir de vous recevoir.
Merci à vous pour vos questions, c'était un grand plaisir de répondre.